Il fallut une heure à Nakata pour trouver le chauffeur routier qui avait accepté de l'emmener jusqu'à Fujigawa. Il conduisait un semi-remorque réfrigéré qui transportait du poisson frais. C'était un homme corpulent, d'une quarantaine d'années, avec des bras épais comme des bûches et un ventre proéminent.
« Mon camion pue le poisson, ça ne vous fait rien ?»
demanda-t-il.
« Nakata aime beaucoup le poisson. »
Le routier se mit à rire.
« T'es pas ordinaire, toi au moins. »«
Oui, on me le dit parfois. »
« Moi, j'aime bien les gens bizarres. Je me méfie des gens normaux qui mènent une vie normale. »«
Ah, vraiment ?»«
Ouais, c'est ma façon de voir. Chacun son opinion, non ?»«
Nakata n'a pas tellement d'opinion personnelle. Mais il aime l'anguille. »«
Eh bien, en voilà une d'opinion. »«
L'anguille, c'est une opinion ?»«
Ouais. »
Dire que tu aimes l'anguille, ça, c'est une sacrée opinion, mon vieux. C'est ainsi qu'ils se rendirent ensemble à Fujigawa. Le chauffeur s'appelait Agita.
Dis, Nakata, comment tu vois l'avenir de ce monde, toi?
Excusez-moi, mais Nakata n'est pas très intelligent et ne comprend rien à ce genre de choses.
Avoir sa propre opinion, ça n'a rien à voir avec l'intelligence ou la bêtise.
Pourtant, Monsieur Agita être idiot, ça empêche de réfléchir.
Mais tu aimes l'anguille, non?
Oui, c'est un des plats favoris de Nakata.
Tu vois, là, tu t'impliques.
Ah?
Est-ce que tu aimes le riz aux œufs et au poulet?
Ça aussi. C'est un des plats préférés de Nakata.
Là encore, tu t'impliques,
répondit le chauffeur. Et c'est à force de s'impliquer comme ça dans de petites choses que tout prend sens naturellement. Plus tu entres en rapport avec les choses, plus tu prends conscience de leur sens.
Ça peut être l'anguille, le riz aux œufs et au poulet, le poisson grillé, n'importe quoi. Tu saisis?
Pas très bien. Il faut entrer en rapport avec la nourriture. C'est ça?
Pas seulement la nourriture. Le système ferroviaire, l'empereur, tout ce que tu veux.
Le système ferroviaire?
Les trains, quoi.
Nakata ne prend jamais le train.
Tu fais bien. Alors, ce que je veux dire, c'est que, par le simple fait de vivre, on établit un lien avec les choses qui nous entourent, quelles qu'elles soient. Et le sens émerge spontanément de tout ça.
Le plus important, c'est de savoir si ça se passe spontanément ou pas. Ce n'est pas une question d'intelligence. Il suffit juste de regarder les choses avec ses propres yeux.
Ce que vous êtes intelligent, Monsieur Agita.
Le routier éclata de rire.
« Je te dis que c'est pas une question d'intelligence. Je ne suis pas spécialement intelligent, mais j'ai ma façon à moi de voir les choses. C'est pour ça que les autres en ont vite marre de moi. D'après eux, je suis un type qui complique tout. Dès que tu commences à réfléchir par toi-même, tu déranges. »
« Nakata n'a toujours pas très bien compris. Il y a un lien entre le fait que Nakata aime l'anguille et le fait qu'il aime le riz aux œufs et au poulet?
Ma foi, on peut dire ça comme ça. Il y a toujours un lien entre toi, Nakata, et les choses auxquelles tu t'intéresses. Et en même temps, il y a un lien entre l'anguille et le riz au poulet. Et ce réseau de liens s'étend au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'un lien s'établisse tout naturellement entre toi et le capitalisme, entre toi et le prolétariat.
Le pro...
prolétariat,
répéta Agita en écartant ses grosses mains du volant pour les montrer à Nakata. On aurait dit des gants de baseball.
Les gens qui gagnent leur vie à la sueur de leur front, comme moi, c'est ça, le prolétariat. De l'autre côté, il y a ceux qui restent assis dans leur fauteuil, sans lever le petit doigt, qui donnent des ordres aux autres et gagnent 100 fois plus qu'eux. Ce sont les capitalistes.
Nakata ne sait pas grand-chose des capitalistes. Il est pauvre et ne sait pas comment vivent les gens importants. En fait, je ne connais qu'une personne, comme vous dites. Le préfet de Tokyo. C'est un capitaliste?
Bah oui, sans doute. Enfin, les préfets, ce sont plutôt les chiens de garde des capitalistes.
Le préfet serait un chien?
Nakata se rappela le gros chien noir qu'il avait conduit chez Johnny Walken et superposa son ombre sinistre à celle du préfet.
Le monde grouille de ce genre de chien, suppôt du capitalisme.
Suppôt?
Instrument, si tu préfères. Des chiens qui obéissent à leur maître.
Les capitalistes n'ont pas de chats?
Agita éclata de rire.
Ah, t'es un comique, toi! J'adore les types comme toi, Nakata. Les chats du capitalisme. Ah, ça, c'est une opinion tout à fait inédite.
Dites, monsieur Agita,
comme je suis pauvre, le préfet me verse une pension tous les mois.
Peut-être que je n'aurais pas dû accepter.
Combien tu touches ?
Nakata lui indiqua la somme. Le camionneur secoua la tête d'un air écœuré.
Ça doit pas être facile de vivre avec si peu d'argent, hein ?
Si, ça va. Nakata ne dépense pas beaucoup d'argent. Et puis les gens me font de petits cadeaux. Parce que je retrouve les chats perdus du quartier.
Waouh ! Un chercheur de chats professionnel ?
Fit Agita d'un air admiratif.
Ah, tu me bluffes, toi ! Tu es vraiment unique en ton genre.
À vrai dire, Nakata sait parler avec les chats. C'est ce qui me permet d'en retrouver pas mal.
Agita hocha la tête.
Je vois, ça ne m'étonne pas de toi.
Mais tout récemment, Nakata s'est aperçu qu'il ne comprenait plus leur langage. Je me demande bien pourquoi.
Le monde change tous les jours, mon vieux. L'heure venue, la nuit s'achève et le jour se lève. Et le monde que tu vois n'est plus le même que la veille. Tu n'es plus le même Nakata que la veille. Tu saisis ?
Oui.
Les relations entre les choses changent aussi. Qui est capitaliste, qui est prolétaire ? Qui est de droite, qui est de gauche ?
La révolution informatique, les actions, le flux des capitaux, les restructurations, la diminution des salaires, les multinationales.
Où est le bien ? Où est le mal ?
Toutes les barrières s'écroulent les unes après les autres.
C'est peut-être à cause de tout ça que tu ne peux plus parler aux chats.
Nakata sait seulement distinguer sa droite de sa gauche. Ici, c'est la droite. Là, c'est la gauche.
C'est exact. Exact, fit Agita en hochant la tête. Très bien.
À la fin du voyage, ils s'arrêtèrent pour dîner. Agita commanda deux plats d'anguilles et régla la note. Nakata insista pour payer, mais Agita refusa en secouant la tête.
« Laisse tomber. Je suis pas riche, mais je suis pas encore sur la paille au point de me faire payer à manger sur la maigre pension que t'accorde le préfet de Tokyo. »«
Merci beaucoup. Je vous suis reconnaissant de ce bon repas, »
dit Nakata, acceptant l'offre généreuse du chauffeur routier. Nakata passa une heure dans le restaurant de l'aire de Fujigawa à demander au camionneur de l'emmener vers l'ouest, sans succès. Il ne céda pas pour autant à la panique, ni au découragement. Dans sa conscience, le temps passait très lentement, ou peut-être ne passait-il pas du tout. Il sortit faire quelques pas aux alentours, histoire de prendre l'air. Il n'y avait pas un nuage dans le ciel et la lune se détachait nettement avec tous ses reliefs. Nakata marcha dans le parking tapotant l'asphalte du bout de son parapluie. D'énormes poids lourds y étaient alignés côte à côte comme des animaux au repos. Certains avaient une vingtaine de pneus, aussi hauts qu'un homme. Nakata contempla un moment ce fascinant spectacle. Tant de véhicules énormes parcouraient-ils les routes la nuit? Que pouvaient-ils bien transporter? Nakata n'en avait pas la moindre idée. S'il avait pu déchiffrer ce qui était inscrit sur les containers, sans doute en aurait-il su davantage sur le chargement de tous ces camions. Après avoir marché un moment, il aperçut une dizaine de motos garées dans un coin désert. Un groupe de jeunes gens se tenait en cercle autour de quelque chose. Ils étaient tous en train de hurler. Intrigué, Nakata s'approcha. Ils avaient peut-être trouvé un trésor, une curiosité. Mais il se rendit bientôt compte qu'ils étaient occupés à tabasser un autre jeune homme étendu au centre du cercle. La plupart frappaient à main nue, sauf un qui avait une chaîne et un autre qui tenait à la main un bâton noir pareil aux matraques des agents de police. Ils avaient les cheveux teints en blond ou en châtain clair. Ils portaient des chemises à manches courtes déboutonnées, des t-shirts ou des survêtements. Certains avaient même des tatouages sur les épaules. Le jeune sur lequel il s'acharnait avait la même allure qu'eux. Quand Nakata s'approcha en tapotant le bout de son parapluie sur l'asphalte, ils se retournèrent tous pour le regarder d'un œil mauvais. Mais lorsqu'ils se rendirent compte que l'intrus était un vieillard, toute méfiance les abandonna.
« Hé, Pépé, va t'en voir là-bas si j'y suis !» fit l'un d'eux.
Nakata l'ignora et continua à avancer. Le jeune étendu à terre saignait de la bouche.
Il saigne. Il va mourir si vous le laissez comme ça, dit Nakata.
Pris de court, les jeunes gens restèrent quoi?
Dis donc, Pépé, fiche le camp si tu veux pas y passer toi aussi,
dit le jeune qui tenait la chaîne.
En zigouiller un ou en zigouiller deux, c'est pas plus compliqué, fit un autre.
On ne tue pas les gens sans raison, insista Nakata.
« On ne tue pas les gens sans raison !»
répéta l'un des jeunes en singeant Nakata. Les autres s'esclaffèrent.
« On a nos raisons, t'en fais pas. Qu'on le tue ou non, c'est pas tes oignons. Allez, reprends ton pébroc et fiche le camp avant qu'il se mette à pleuvoir. »
L'homme étendu à terre esquissa un mouvement. Et aussitôt, un jeune au crâne rasé lui donna un violent coup de botte dans les côtes. Nakata ferma les yeux. Il sentait quelque chose commencer à enfler en lui, quelque chose d'incontrôlable qui lui donnait une vague nausée. Il se rappela soudain comment il avait frappé Johnny Walken. Il avait encore dans les mains le souvenir du couteau s'enfonçant dans la poitrine de Johnny Walken. « Il faut s'impliquer », pensa Nakata. « Établir des liens ». C'était peut-être de ce genre de choses que parlait M. Agita tout à l'heure. Anguille égale couteau égale Johnny Walken. Les voix des jeunes voyous lui parvenaient déformées et indistinctes. Le chuintement incessant des pneus sur l'autoroute se mêlait à ses voix, formant un étrange bruit de fond. Son cœur se rétracta soudain, en voyant du sang dans tout son corps. La nuit enveloppa Nakata. Il leva la tête vers le ciel, ouvrit lentement son parapluie, l'éleva au-dessus de lui. Puis il recula prudemment de quelques pas. Les jeunes le regardaient faire en rigolant.
« Ah, il est marrant, ce vieux! Il a vraiment ouvert son pébroc, dis donc !»
Mais leurs rires ne durèrent pas longtemps. Tout à coup, des objets inconnus et visqueux se mirent à tomber du ciel et à s'écraser sur le sol avec de drôles de bruits.
« Splosh ! Splosh !»
Les jeunes gens cessèrent alors de donner des coups de pied à leurs victimes inertes et levèrent les yeux vers le ciel. Il n'y avait pas un nuage. Pourtant, une averse tombait bel et bien de là-haut. Sporadiquement au début, puis la cadence s'intensifia et en quelques instants, il se mit à pleuvoir quantité de ces petits objets noirs longs de 3 cm environ. Sous une lumière du parking, on aurait dit une neige noire et luisante. Ces choses immondes pleuvaient sur les épaules, les bras, la nuque des jeunes voyous, et y restaient collés. Ils avaient beau essayer de les arracher, ils n'y parvenaient pas.
Des sangsues !»
s'écria l'un d'eux. Ce fut le signal de la débandade. Ils se mirent tous à hurler et traversèrent le parking en courant en direction des toilettes. À mi-chemin, l'un d'eux fut renversé par une voiture qui sortait du parking. Comme elle ne roulait pas vite, le jeune aux cheveux blonds se releva aussitôt, frappa le capot de la voiture de toutes ses forces du plat de la main, abreuva le chauffeur d'injures. Puis il reprit sa course vers les toilettes en traînant un peu la jambe. Après être abondamment tombé, la pluie de sangsues se calma puis s'arrêta complètement. Nakata referma son parapluie, épousseta ses vêtements et s'avança vers le jeune étendu à terre. Un tas de sangsues grouillait tout autour de lui et le recouvrait, empêchant Nakata de l'approcher et même de le voir. Il se rendit cependant compte qu'il avait une arcade sourcilière fendue, d'où le sang coulait abondamment, ainsi que quelques dents cassées. Nakata ne pouvait pas s'en occuper tout seul. Il lui fallait aller chercher de l'aide. Il retourna donc vers le restaurant et expliqua aux employés qu'il y avait un jeune homme blessé étendu dans un coin du parking.
« Il faut appeler la police, sinon il va peut-être mourir. »
Un petit moment plus tard, Nakata trouva un chauffeur routier qui acceptait de l'emmener à Kobe. C'était un homme d'environ 25 ans, au regard endormi. Il avait une queue de cheval et un anneau à l'oreille et était coiffé d'une casquette de baseball à l'effigie des Shunichi Dragons. Assis seul dans le restaurant, il lisait des mangas en fumant une cigarette. Il portait une chemise hawaïenne criarde et était chaussé de Nike trop grande pour lui. Il était de taille moyenne. Il laissait négligemment tomber les cendres de sa cigarette dans son bol de nouilles à moitié vide. Il regarda fixement Nakata, puis hocha la tête comme à regret.
« D'accord, je vous prends. Vous ressemblez à mon grand-père. La façon dont vous êtes habillé et dont vous parlez. À la fin, il était complètement gâteux. Ça fait un moment qu'il est mort. »
Ils arriveraient le lendemain matin à Kobe, expliqua-t-il. Ils transportaient des meubles destinés à un grand magasin de la ville. À la sortie du parking, ils tombèrent sur un accident. On voyait clignoter les gyrophares rouges de plusieurs voitures de police, et un agent réglait la circulation sur le parking en agitant une lampe torche. Ça n'avait pas l'air très grave. Plusieurs voitures s'étaient carambolées, apparemment. L'aile avant d'un minibus était enfoncée, et une voiture avait les feux arrière cassés. Le routier ouvrit sa vitre et passa la tête au dehors. Il échangea quelques mots avec l'agent puis referma sa vitre.
« Il paraît qu'il a plus des sangsues », expliqua-t-il à Nakata sans la moindre émotion. « Ça a rendu la chaussée glissante et certains chauffeurs ont perdu le contrôle de leur véhicule. Il m'a dit de conduire prudemment. En plus de ça, il y a eu un règlement de compte chez un gang de motards du coin et il paraît qu'il y a un blessé grave. » « Des sangsues et un gang de motards. Drôle de combinaison, hein? Ça occupe la police, au moins. »
Il ralentit, se dirigea prudemment vers la sortie. Ses pneus dérapèrent plusieurs fois. Chaque fois, il redressait le camion en manœuvrant habilement.
« Eh ben, dites donc, on dirait qu'il en est tombé pas mal. La route est une vraie savonnette. C'est plutôt dégoûtant, les sangsues, pas vrai? Hein, grand-père? « Vous avez déjà eu des sangsues collées sur vous ?»«
Non. Nakata n'en a pas le souvenir, en tout cas. »«
Moi, j'ai été élevé dans les montagnes du côté de Gifu. Alors, ça m'est arrivé plein de fois. Quand vous marchez dans la forêt, les sangsues vous tombent dessus du haut des arbres. Si vous allez vous baigner dans la rivière, elles vous attaquent les pieds. Moi, je vous le dis, j'en connais un rayon, question sangsues. » Une fois qu'elles sont collées à vous, impossible de s'en défaire. Les grosses, elles sont drôlement costauds. Si vous les arrachez, elles vous laissent une cicatrice sur la peau. Il n'y a qu'une seule chose à faire pour s'en débarrasser, c'est de les brûler. L'arc. Elles se collent sur votre peau pour vous sucer le sang et après elles deviennent toutes grosses et flasques. C'est immonde, hein ?
C'est sûr, acquiesça Nakata.
Tout de même... Les sangsues ne tombent pas du ciel au milieu d'un parking d'autoroute. Rien à voir avec une averse. Jamais rien entendu d'aussi stupide. Les gars d'ici n'y connaissent rien en sangsues. Je vous le dis, moi. Depuis quand les sangsues tombent du ciel? Hein? Vous pouvez me le dire?
Nakata ne répondit pas.
Il y a quelques années, des quantités invraisemblables de mille pattes sont apparues dans la préfecture de Yamanashi. Ça faisait déraper les pneus. C'était terrible. Ça a causé un tas d'accidents. Les rails de chemin de fer étaient inutilisables. Ils ont dû interrompre le trafic. Mais ils n'étaient pas tombés du ciel pour autant, ces mille pattes. Ils étaient sortis en rampant de je ne sais quel trou. Il suffit d'un peu de bon sens pour comprendre ça. Nakata aussi est allé dans la préfecture de Yamanashi, autrefois. C'était pendant la guerre.
Ah bon?
Quelle guerre?
Demanda le chauffeur.